Vous écoutez
RMC.
RMC, Apolline Matin.
L'invité de l'actu.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour docteur François Salacas.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes membre du collectif Interhôpitaux. Vous faites partie de ceux qui avaient alerté sur la situation de l'hôpital avant même la crise du Covid que l'on traverse. On le réécoutera tout à l'heure parce que c'était des mots très forts que vous aviez lancés à Emmanuel Macron il y a plus d'un an maintenant. Mais d'abord la situation aujourd'hui. Certains de vos confrères emploient le futur dans une tribune dans le journal Le Monde. Ils disent on va dans le mur, on va devoir trier des patients en réanimation. Je voudrais que vous puissiez utiliser le présent. À l'instant où l'on se parle, est-ce que oui, on est dans le mur? Est-ce que oui, on trie des patients? Ou est-ce que la réalité, c'est qu'on a encore un peu de marge?
Je pense qu'il faut écouter les professionnels de terrain, en l'occurrence ces réanimateurs, hein, qui sont confrontés à ce virus depuis maintenant plus d'un an. C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, sur le tri, en fait, oui, je pense qu'on a déjà commencé à trier. Il y a plusieurs types de tri. Il y a le tri du patient qui serait éligible à la réanimation et qui, en fait, va avoir une perte de chance de ne pas pouvoir être pris en temps et en heure dans des services spécialisés et pour lesquels il va y avoir une perte de chance. Et puis, il y a un autre tri qui est beaucoup plus insidieux, dont on n'a pas parlé ou dont on parle beaucoup moins, mais qui est aussi important, c'est le fait que l'hôpital, de nouveau, est en train de se diriger vers un hôpital Covid, essentiellement, et que les patients qui n'ont pas le Covid font les frais de cette situation-là. Donc, et ça, c'est des frais avec des reports dont on a déjà parlé, et ça depuis finalement un an. Et c'est vrai pour le dépistage des cancers, c'est vrai pour les maladies chroniques. Et ce tri-là, qui est un tri insidieux, et avec à la fin un bilan sur lequel il faudra revenir, et c'est sûr que les patients Covid négatifs sont déjà victimes du tri.
Quand on vous écoute, vous les soignants, on se dit qu'au fond... Il monte presque une forme d'amertume, y compris vis-à-vis des décisions politiques, à ne pas avoir assumé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le professeur Éric Combes, par exemple, qui était mon invité il y a quelques jours à votre place, disait, au fond, on est dans un vrai choix politique, qui est le choix de laisser circuler le virus, de vivre avec le virus. Alors certes, il y a des limitations, il y a des couvre-feux, il y a des régions avec une sorte de confinement, mais c'est un choix qui a été fait, qui est celui, au fond, de vivre avec le virus. Il faudrait qu'il soit assumé, disait-il, par le politique, plutôt que de nous laisser à nous, soignants, en première ligne, la responsabilité peut-être de trier ou en tout cas d'assumer qu'il y a un nombre de morts, qu'il y a un nombre de malades important. Est-ce que vous aimeriez que ce soit dit de manière plus transparente, plus franche?
Oui, mais enfin, faut pas se bercer d'illusions. Je pense que politiquement, personne n'assume ce type de choix, de la même façon que le débat sur jusqu'à quel point il y a de l'obstination déraisonnable et un débat compliqué dans la société pour les personnes âgées, par exemple. Mais je suis tranquille sur le fait que cette parole de professionnel qui vit d'une certaine façon dans sa chair, ce qu'on impose aux patients actuellement, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas assumé. C'est même pire que ça. Est-ce que c'est ressenti au plus haut niveau de l'État? Moi, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question, qui est une question extrêmement personnelle, en fait.
Vous vous sentez seul, vous les soignants, sur le front, face à chaque décision individuelle?
On se sent globalement seul sur le fait qu'on crie dans le désert depuis maintenant des années, surtout depuis un an et demi, que tout ce qu'on a dit sur le fait que l'hôpital était en situation extrêmement précaire n'a pas été écouté, et qu'on se retrouve actuellement à faire face à un énorme problème, sans avoir eu le moindre progrès dans les moyens qu'il y a en face.
On nous a promis des lits, on nous a promis davantage de moyens, on nous a promis une revalorisation de vos salaires. Qu'en est-il aujourd'hui?
Je pense que le seul point qu'on peut retenir, c'est 183 euros pour une partie des personnels hospitaliers. C'est tout. C'est tout. Or, c'est un bilan extrêmement maigre, parce qu'on nous renvoie sans arrêt. Mais vous avez eu le Ségur, mais c'est une plaisanterie. Le Ségur, c'est juste ça, c'est pas du tout à la hauteur du problème. Et le problème, c'était de s'intéresser à plusieurs choses. D'abord, vous avez parlé des lits. Je rappelle, je n'arrête pas de le rappeler, qu'à l'heure où nous parlons, la diminution du nombre de lits, notamment pour le futur hôpital Nord à Paris, elle est actée. C'est-à-dire qu'on va diminuer de 300 lits un hôpital qui est censé reprendre la place de l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon. Je parle de Paris, mais je pourrais parler de Nancy.
Ça veut quand même dire, attendez, ça paraît fou, François Salacas, que dans le moment où on est tous en train de dire « il n'y a pas assez de lits, on manque de lits, c'est une catastrophe », où le Premier ministre et le ministre de la Santé nous disent « on va pousser les murs, on va y arriver, il faut faire attention », en fait, dans le même temps, il y a des décisions qui sont prises de fermer des lits.
Mais absolument. C'est-à-dire que, en fait, le capacitaire de lit qui devait être d'au moins 1100, si on additionne les deux hôpitaux, en fait, il va être amputé de 300 lits. C'est complètement fou. Et pour l'instant, j'ai entendu personne s'insurger, si ce n'est les élus locaux, sur cette question-là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la trajectoire de l'hôpital public en France, elle ne s'est pas modifiée grâce à la crise du Covid.
Elle ne s'est pas modifiée depuis ça. Je voudrais qu'on vous écoute. C'était le 27 février 2020, le cri d'alarme que vous poussiez alors même que la crise sanitaire n'était pas encore là. Vous étiez face à Emmanuel Macron.
La situation s'est considérablement aggravée et je pense qu'il est de la responsabilité des tutelles en général et du président de la République qui est le protecteur de l'ensemble de la nation d'assumer ce rôle. Et c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an.
Je vous ai entendu, docteur. Comme vous le savez, j'ai d'ailleurs pas attendu pour traiter du sujet de la santé de l'hôpital. Moi, je vous entends, mais ce qu'on vit à l'hôpital public depuis longtemps maintenant n'est pas né d'hier.
C'est pas moi.
Ça, c'était le 27 février 2020. On est aujourd'hui le 30 mars 2021. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que quand même, il y a quelque chose qui est ressorti de ça ?
Non, rien n'est ressorti sur les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux. Si on veut sauver l'hôpital public en France, auquel je rappelle que les Français sont extrêmement attachés et ils
et
l'ont
plus
prouvé.
Plus encore aujourd'hui qu'il y a un an.
Et ils l'ont prouvé, notamment par les applaudissements, mais pas seulement. Donc, il y a plusieurs leviers. Il y a... Bien sûr, le levier des moyens. Je rappelle que le plan de financement de la Sécurité sociale qui a été voté par... C'est pas la majorité, en fait. C'est eux qui votent les lois. Est actuellement, encore une fois, on demande 1 milliard d'économies à l'hôpital. C'est-à-dire que finalement, c'est la même trajectoire depuis 10 ans. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est pour le financement de l'hôpital public. La deuxième chose... C'est comment on finance l'hôpital public et on reste sur la tarification à l'activité, sur un hôpital entreprise, sur le.
Finalement, on se rend compte aujourd'hui de la fragilité de tout ça et pour autant, aucune décision politique n'est prise pour en changer.
Non, parce qu'il faut des décisions extrêmement courageuses et qui engagent l'avenir. Et surtout, il y a urgence à le faire. Donc ça, c'est le deuxième levier, rien. Troisième levier, la gouvernance. Qui, à l'hôpital, finalement, prend les décisions ? Qui est associé aux décisions, aux projets médicaux ? Pour l'instant, l'essentiel... Et dans les mains du directeur, le fameux patron unique de Nicolas Sarkozy, ça n'a pas changé. Et la loi RIST qui vient d'être votée, parce qu'on
est-ce
vote des
est-ce
lois.
Qu'il y a trop de, on parle beaucoup en ce moment du problème et du poids de la bureaucratie. Est-ce que vous, à l'hôpital, ça a été un peu allégé à la lumière de cette crise ?
Non, mais on dit tous que pendant la première vague, quand les soignants avaient besoin de quelque chose, ils l'obtenaient. Et effectivement, cette parenthèse enchantée où tout d'un coup on peut soigner. Mais qu'est-ce que demandent les soignants à l'hôpital public ? C'est complètement fou. Ils demandent simplement de pouvoir soigner. Ça paraît dingue de dire que ça... Et pour l'instant, c'est pas possible. Donc la gouvernance, c'est extrêmement important. C'est qui, à l'hôpital, prend les décisions. Pour l'instant, et la loi n'a rien changé à ça, ça reste le directeur de l'hôpital. Je ne parle même pas des usagers qui sont à peine associés aux décisions de l'hôpital public.
Merci beaucoup, docteur François Salakas. On voit qu'un an plus tard, votre énergie est toujours la même et votre besoin de réponse. Merci beaucoup. Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du collectif Interhôpitaux.